Conte de Charles Dickens, traduit par Robert de Cerisy, édité par la librairie de Firmin et Didot et compagnie à Paris en 1888. Premier conte. Aux abois. Il n'est pas rare de voir se dérouler, au milieu des événements les plus terre-à-terre de la vie réelle, de véritables drames. En ma qualité de directeur d'une de nos plus grandes compagnies d'assurance sur la vie, j'ai eu plus que qui que ce soit depuis 30 ans l'occasion de noter des faits bien étranges. Je me suis trouvé mêlé à plus d'un roman, quelque peu romanesque que puisse paraître d'ailleurs, au premier abord, la situation d'un directeur de compagnie. Je suis retiré maintenant, je vis à mon aise, et j'ai tout le temps d'étudier à loisir, de classer le résultat de mes observations. À distance, ces observations prennent même plus d'importance et d'intérêt. J'éprouve une impression analogue à celle que je ressens en sortant du théâtre. Je rentre chez moi. Je repasse dans mon souvenir toutes les scènes du drame sur lequel vient de tomber le rideau. Je les juge, dégagés de l'entraînement, du bruit, du brouhaha, du prestige de la scène. Il me prend fantaisie aujourd'hui de raconter un de ces épisodes dont je me suis trouvé être le témoin. Il n'y a rien de moins trompeur, à mon avis, de plus vrai que la physionomie humaine jointe à la manière d'être. L'art de lire le livre de l'éternelle sagesse sur lequel chaque créature humaine imprime son caractère propre est un art difficile et fort négligé. Il y faut une aptitude spéciale et beaucoup de patience et de soin. Peu de personnes en cette matière se donnent la peine d'avoir une opinion personnelle. Et on se contente, en général, d'accepter en bloc un certain nombre d'idées reçues. Telles expressions de physionomie sont admises comme représentant tel caractère. Et on ne cherche pas à reconnaître ces 1000 indices qui sont si importants, car ce sont eux qui donnent la note vraie. Ainsi, je parierais que vous, lecteur, qui consacrez la plus grande partie de votre temps à faire de la musique, à lire du grec, du latin, du français, de l'italien, même de l'hébreu, il ne vous est même pas venu à l'idée de chercher à déchiffrer le visage du professeur ou de la maîtresse qui se penche sur votre épaule et vous donne votre leçon. Quelle est donc la raison de cette indifférence ? Ne la trouverait-on pas dans une certaine confiance en vous-même ? Qu'avez-vous besoin d'étudier la physionomie humaine ? N'avez-vous pas tout naturellement un coup d'œil sûr, une rectitude de jugement qui fait qu'il n'y a pas moyen de vous mettre dedans ? Eh bien, j'avoue que pour ma part, j'ai été mis dedans, non pas une fois, mais 100 fois. J'ai été mis dedans par des connaissances, par des amis. Surtout par des amis. Comment me suis-je trompé si souvent ? Serait-ce que cette science, pour laquelle cependant j'ai certaines prétentions, m'aurait fait défaut ? Aurais-je mal lu les physionomies ? Non, ma première impression, fondée seulement sur l'expression des visages et la manière d'être, avait invariablement été la bonne. Seulement, j'avais commis l'erreur de permettre à ces créatures de m'approcher et de substituer à cette première impression leurs explications personnelles. Chapitre 2. Un monsieur insinuant. J'avais fait remplacer la cloison qui séparait mon cabinet personnel de notre bureau central dans la cité par une glace sans teint. Cela me permettait de voir tout ce qui se passait à côté, sans cependant être gêné par le bruit. La glace était épaisse et ne laissait même pas arriver le son des voix. D'après ma théorie, je considérais comme très important d'avoir sur les gens qui venaient chez nous pour affaires une impression première dégagée de toute influence. Que je fusse établir ma cloison de verre dans ce but, cela importe peu. Il suffit de savoir que je l'utilisais ainsi et que j'eus nombre de fois l'occasion de m'en servir, car une compagnie d'assurance sur la vie a toujours été le champ d'opération préféré des gens les moins recommandables et les moins scrupuleux. Ce fut à travers ma glace que j'aperçus pour la première fois le personnage dont je vais raconter l'histoire. Il était entré sans que je le visse, avait déposé sur le large comptoir son parapluie et son chapeau, et il se penchait en avant pour prendre des papiers qu'un employé lui tendait. C'était un homme dans les 40 ans à peu près, brun, extrêmement bien mis. Il était en grand deuil. La main qu'il tendait d'un geste poli était finement gantée d'un gant de chevreau noir. Ses cheveux, soigneusement brossés et pommadés, étaient séparés juste au milieu du front par une raie. Cette raie, je la pris en grippe dès le premier moment. Elle avait l'air de dire au commis « Vous me ferez un plaisir, mon ami, de prendre ce chemin frayé, de ne pas vous égarer, de ne pas chercher midi à 14 heures. Je tiens à ce que vous ne vous fassiez pas de moi une autre idée que celle qui me convient. Allons, par ici, c'est tout droit. Suivez le sentier tracé, ne marchez pas sur les plates-bandes, c'est défendu. » Aussitôt que je vis cet homme, j'éprouvai pour lui la plus grande aversion. Il venait demander nos tarifs imprimés, et le commis, en les lui remettant, les lui expliquait. Un sourire obligeant et aimable errait sur les lèvres de l'homme, et il regardait le commis bien en face, d'un air enjoué. J'ai entendu dire beaucoup de bêtises à ce sujet-là, et soutenir que les méchants n'osaient pas regarder en face les braves gens. Ne vous y fiez pas. Un fripon n'aura jamais de peine à désarçonner un honnête homme, et il n'y manquera pas chaque fois que cela pourra lui rapporter quelque chose. Je vis bientôt, à un petit tremblement de ses cils, qu'il s'était aperçu que je le regardais. Immédiatement, il se retourna de mon côté, me montra sa raie bien en plein, ayant l'air de dire à moi aussi avec un sourire « Par ici, je vous prie, tout droit, ne marchez pas sur les plates-bandes. » Quelques minutes plus tard, il avait repris son chapeau, son parapluie, et il était parti. Je fis venir le commis et demandai « Qui était-ce ? » Il tenait encore dans sa main la carte que lui avait remise le monsieur en entrant. « Monsieur Julius Slington, Middle Temple. » « Un avocat, monsieur Adams ?»«
Je ne crois pas, monsieur. »«
Je l'aurais pris pour un pasteur, dis-je, mais il y aurait sur sa carte le révérend, etc. » « J'aurais cru aussi, d'après son extérieur, reprit M. Adams, qu'il se destinait aux ordres. » Et je dis qu'il portait une cravate blanche et du linge très soigné. « Que demandait-il, M. Adams ?»«
Un tarif et un modèle de police d'assurance. »
« Avait-il une recommandation ?»«
Il venait de la part d'un de vos amis. Il vous a aperçu un moment, mais comme il n'avait pas l'honneur de vous connaître personnellement, il n'a pas voulu vous déranger. »
« Savait-il mon nom ?»«
Oh oui, monsieur, car il a dit « Ah, j'aperçois monsieur Sampson. » »«
C'est un homme qui a de bonnes manières, qui s'exprime bien ?»«
D'une façon remarquable, monsieur. » »«
Un peu insinuant, n'est-ce pas ?»«
En effet, monsieur. » »«
Bien, dis-je, je n'ai besoin de rien pour le moment, monsieur Adams. »
Quelques jours plus tard, j'allais dîner chez un de mes amis, un commerçant fort riche. Homme de goût, grand amateur de tableaux et de livres, et la première personne que j'aperçus parmi les invités, ce fut M. Julius Slington. Il était là, debout devant la cheminée, avec de grands yeux qui regardaient bien franchement devant eux, et une physionomie très ouverte. Et cependant, j'eus l'impression que tout cela était convenu, qu'il voulait en imposer aux gens et les obliger à venir à lui par le chemin qui lui plaisait, et seulement par celui-là. Je l'entendis qui demandait à m'être présenté, ce que mon ami fit immédiatement. « Monsieur Slington se dit très heureux de me rencontrer, non pas trop heureux. Il n'y eut rien là qui dépassât la mesure, non. Il était heureux d'une façon parfaitement convenable, bien élevée, et sans aucune affectation. « Je croyais que vous étiez déjà rencontré, » dit notre hôte. « Non, » reprit M. Slington. « Je suis allé au bureau de M. Sampson sur votre recommandation, mais je n'avais pas voulu le déranger pour un renseignement que le premier commis venu pouvait me donner. Je lui dis que j'eusse été heureux de pouvoir lui être utile. « Je n'en doute pas, » reprit-il, « et je vous en remercie. Une autre fois, peut-être, serais-je moins discret, mais seulement, je vous le promets, si l'affaire en vaut la peine. Car je sais, monsieur Sampson, combien le temps des hommes d'affaires est précieux. » Je reconnus la justesse de son observation en m'inclinant légèrement. « Est-ce que vous pensez à vous faire assurer ?»« Oh Dieu, non ! Je crains, monsieur Sampson, que vous n'ayez de ma prévoyance une trop bonne opinion. Je prenais seulement des renseignements pour un ami. Mais vous savez ce que sont les amis en pareil cas. Il se peut très bien que tout cela n'aboutisse pas. Aussi, j'aurais été désolé de vous déranger pour de simples renseignements dont il y a cent à parier que mon ami ne se servira même pas. Ah, à quoi bon donner des conseils? Les gens sont si incertains, si égoïstes, si légers, n'est-ce pas, monsieur Sampson? J'allais lui répondre et développer mon opinion, mais il tourna vers moi cette raie irréprochable qui semblait dire « Allons, par ici, tout droit, s'il vous plaît. » Si bien que je répondis simplement « Oui. » « J'ai entendu dire, monsieur Sampson, » reprit-il presque immédiatement, car notre ami, ayant une nouvelle cuisinière, le dîner n'était pas aussi exact qu'à l'habitude, que les assurances venaient de faire une grande perte. « D'argent, » dis-je. Il sourit de me voir associer immédiatement le mot « perte » et le mot « argent » et reprit. « Non, de talent et d'intelligence. » Ne comprenant pas d'abord à quoi il faisait allusion, je réfléchis un instant. « Avons-nous vraiment fait une perte de ce genre? Je n'en avais pas connaissance. » « Vous ne me comprenez pas, monsieur Sampson. Je ne fais pas allusion à votre retraite. Ce n'est pas si grave que cela. Mais, monsieur Meltham... »«
Oh, c'est vrai !» m'écriai-je.
« Oui, monsieur Meltham, le jeune secrétaire de l'inestimable. » « Lui-même, » ajouta-t-il sur un ton de condoléance. C'est en effet une grande perte, car c'était l'homme le plus énergique, le plus fin, le plus original que j'ai jamais connu dans notre genre d'affaires. Je parlais avec chaleur, car j'avais une haute estime et une grande admiration pour Meltham. Et je ne sais pourquoi, j'avais le sentiment que mon interlocuteur avait eu, en parlant, un accent légèrement gouailleur. Mais il me rappela moi-même et me remit sur mes gardes en me présentant ce fameux petit sentier qui courait le long de sa tête. « Non, non, pas sur les plates-bandes. Je vous prie, suivez le sentier. » « Vous connaissez M. Meltham, monsieur ?»«
Seulement de réputation. » S'il eût continué à vivre dans le monde, j'eusse certainement cherché à faire sa connaissance. Il n'avait guère plus de 30 ans, n'est-ce pas ?
À peu près 30 ans.
Comme c'est triste.
Et il soupira.
Quelle faible créature nous sommes, à cet âge, renoncer à tout, au travail.
Et s'explique-t-on au moins pourquoi ?
Pensais-je en le regardant. Tu veux me faire prendre le sentier.
Et moi, je veux marcher dans les plates-bandes.
Quelle est la raison que l'on vous a donnée, monsieur Slington ? Demandai-je à brûle-pourpoint. Une raison qui, sans doute, n'est pas la bonne. Vous savez ce qu'est le monde, monsieur Sampson. Aussi, je ne répète jamais rien de ce que j'entends dire.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé de rogner les ongles et de raser la tête à la médisance. Mais si vous, monsieur Samson, vous me demandez quelle est la raison que l'on m'a donnée de la retraite de monsieur Meltham, c'est autre chose. Ce n'est plus du bavardage. Donc, mon cher monsieur, je me suis laissé dire que monsieur Meltham avait abandonné ses occupations et renoncé à un bel avenir à la suite d'un chagrin d'amour. Un désappointement de cœur, m'a-t-on dit, ce qui paraît invraisemblable quand il s'agit d'un homme aussi distingué et aussi séduisant.
La distinction et le charme ne peuvent rien contre la mort, dis-je.
Elle est morte. Oh, pardonnez-moi, je n'avais pas entendu dire cela. C'est vraiment très triste, très triste. Pauvre monsieur Meltham, elle est morte. Oh, grand Dieu, c'est affreux, affreux.
Cette compassion m'irritait. Elle ne me semblait pas de bon aloi. J'y sentais quelque chose d'ironique.
Comme on annonçait que le dîner était servi, il ajouta. « Monsieur Samson, vous vous étonnez peut-être de me voir si ému par une infortune qui m'est, après tout, étrangère. C'est que je ne suis pas si désintéressé que vous le pensez. J'ai souffert, et souffert récemment. J'ai perdu une des deux charmantes nièces qui ne me quittaient pas. Elle est morte jeune, elle n'avait pas 23 ans, et sa sœur, celle qui me reste, est bien délicate. Ce monde est un tombeau. »
Vraiment, il avait l'air sincère, et j'étais tenté de me reprocher mes mauvaises pensées. La prudence et la méfiance sont si contraires à ma nature que j'ai toujours grand-peine à m'y résoudre. Je n'y étais amené que par les dures expériences de la vie, et je me demande parfois si, en perdant la foi et la confiance, et en acquérant cette froide circonspection, je n'ai pas fait un marché de dupes.
Le genre de réflexion que m'inspirait cet individu rentrant dans une de mes manies, je continuai à l'observer tout le temps que dura le dîner. Je remarquai que chacun était toujours disposé à causer avec lui. Je remarquai avec quelle finesse il savait choisir les sujets de conversation d'après les habitudes et les situations des gens. Causant avec moi, il avait de suite abordé le sujet qui devait le plus m'intéresser. Avec les autres, il suivait le même procédé. Il en savait juste assez sur chacun pour que cela le guidât, et assez peu pour qu'il fût naturel qu'il cherchât à en savoir davantage. À mesure qu'il parlait, et en réalité il ne parlait pas plus qu'il ne fallait, je me faisais des reproches de plus en plus vifs. Dans ma pensée, je me livrais à un véritable travail d'horlogerie. Je démontais, morceau par morceau, toute sa figure, comme j'aurais démonté une montre, et j'examinais chaque pièce l'une après l'autre. Je ne trouvais rien à dire à aucun trait en particulier, et encore moins quand je les examinais à l'ensemble. Alors, n'était-ce pas monstrueux, pensais-je en moi-même, de suspecter un homme et même de le détester uniquement parce qu'il portait une raie tout juste au milieu de la tête? Je dois remarquer ici que cette réflexion ne faisait pas grand honneur à mon jugement. Il n'y a pas d'indice insignifiant pour l'observateur. Et la chose la plus futile en apparence, si elle éveille la défiance ou la répulsion, a le droit d'être prise en très grande considération. Cela peut être le fil qui aidera à sortir de ce labyrinthe et qui révélera tout le mystère. Il suffit d'un crin arraché à la crinière du lion pour mettre sur sa trace. Il suffit d'une toute petite clé pour ouvrir la porte la plus massive. Je finis par me mêler de la conversation, et nous nous entendîmes à merveille. Lorsque nous fûmes rentrés au salon, je demandai à notre hôte s'il y avait longtemps qu'il connaissait M. Slington.
« Non, seulement depuis quelques mois. »
Il avait fait sa connaissance chez un peintre célèbre qui dînait aussi avec nous ce soir-là et qu'il avait rencontré en Italie
où il voyageait pour la santé de ses nièces. Ses plans s'étant trouvés changés par la mort d'une des jeunes filles, il avait repris ses études avec l'intention d'entrer dans les ordres. Il me parut qu'un malheur commun suffisait à expliquer l'intérêt que lui avait inspiré le pauvre Meltham, et que ma méfiance avait été bien prompte à s'éveiller sur ce simple fait. Chapitre 3. Une visite matinale. Le surlendemain, j'étais assis à ma table de travail, derrière ma cloison de verre, lorsque, comme la première fois, je le vis entrer dans le bureau. En l'apercevant ainsi, je sentis toute ma défiance et toute ma haine me revenir. Mais ce ne fut que l'affaire d'un instant, car dès qu'il m'aperçut, il me fit de la main un geste amical et entra.
« Bonjour, monsieur Sampson. Vous voyez que j'abuse de votre aimable permission. Mon indiscrétion n'est pas justifiée, car l'affaire qui m'amène est de bien peu d'importance. »
Je lui demandai ce que je pouvais faire pour lui.
« Rien, je vous remercie. J'étais entré seulement pour demander si mon ami avait manqué à ses habitudes au point de se montrer prévoyant et pratique. Naturellement, il n'a encore rien fait. Et cependant, le jour où je lui ai remis moi-même vos papiers, il était tout rempli de bonnes intentions, dont il n'est rien sorti, bien entendu. En dehors de la disposition naturelle qu'ont tous les hommes de ne pas faire ce qu'ils devraient faire, il y a encore un cas spécial quand il s'agit d'une assurance sur la vie. C'est comme pour un testament. Les gens pensent que cela les fera mourir. On est si superstitieux.
Allons, par ici, je vous prie, monsieur Sampson, tout droit. Ne vous égarez ni à droite ni à gauche. Il me semblait presque l'entendre me murmurer ces paroles, tandis qu'il était là, souriant devant moi, avec cet insupportable ray juste en face de mon nez.
« Oui, sans doute, on rencontre quelquefois ce préjugé, mais ce n'est pas général. »« Je voudrais bien, » continua-t-il en faisant un léger mouvement d'épaule et en souriant, « que quelque bon ange influençât mon ami dans le bon sens. Je me suis imprudemment engagé, vis-à-vis de sa mère et de sa sœur qui habitent le Norfolk, à veiller à ce qu'il tienne à sa promesse, car il avait promis. Mais j'ai bien peur qu'il ne se décide jamais. »
Il causa encore pendant quelques minutes, puis il se retira. Le lendemain, je n'étais pas encore installé à mon bureau, qu'il faisait son apparition. Je remarquai qu'il ne s'arrêta pas dans la première pièce et qu'il vint droit à moi.
« Pouvez-vous me donner quelques instants, mon cher monsieur Sampson ?»«
Certainement. »«
Je vous remercie, » dit-il, en se débarrassant de son chapeau et de son parapluie et en les posant sur la table. « Je suis venu de bonne heure afin de ne pas vous déranger. C'est que j'ai été tout à fait pris au dépourvu. Mon ami m'a désigné pour donner des renseignements sur sa police d'assurance. »«
Ah, il s'est décidé ? » dis-je.
« Oui, » répondit-il tranquillement en me regardant bien en face. Puis, comme si tout à coup une idée le frappait. « Après tout, ce n'est peut-être pas vrai. Il a peut-être voulu me tromper pour se débarrasser de moi. » « Par Jupiter, je n'avais pas pensé à cela. »
Monsieur Adams ouvrait le courrier dans la pièce à côté.
« À quel nom, monsieur Slington ?» demandai-je.
« Beckwith. » J'entrouvris la porte et je priai monsieur Adams s'il avait une demande signée Beckwith de nous la porter. Elle lui était déjà passée par les mains. Il la retrouva aisément et me la donna. C'était une demande d'assurance pour une somme de 2000 livres. Elle était datée de la veille.
« De Middle Temple, à ce que je vois, monsieur Slington. »« Oui, nous habitons la même maison, porte à porte. Je n'aurais pas cru, cependant, qu'il m'eût indiqué pour les renseignements. »«
C'est cependant assez naturel. »«
C'est vrai, mais je n'y avais pas pensé, voyons. »
Et il sortit de sa poche l'imprimé.
« Comment faut-il que je réponde à toutes ces questions ?»«
En toute vérité, bien entendu, » dis-je.
« Oh, bien entendu !» reprit-il, relevant les yeux et me regardant avec un sourire. « Je voulais dire seulement qu'elles étaient bien nombreuses, mais je comprends que vous soyez très peu regardant. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voulez-vous me permettre de me servir de votre plume et de votre encrier ?
Certainement.
Et de votre bureau?
Comment donc?
Il avait hésité, cherché de côté et d'autre un endroit pour écrire. Maintenant, il était assis à ma place, devant mon propre papier buvard. Et tandis que je me tenais le dos appuyé à la cheminée, j'avais en perspective devant les yeux la fameuse raie. Il lisait chaque question à haute voix. Et avant de répondre, il la discutait. Depuis combien de temps connaissait-il M. Beckwith? Et il comptait sur ses doigts. Quelles étaient ses habitudes? Là-dessus, il n'y avait pas le moindre doute. Il était très sobre. La seule chose à dire, peut-être, c'est qu'il abusait de l'exercice. Il se fatiguait un peu. Toutes les réponses furent satisfaisantes. Lorsqu'il les eut toutes écrites, il les relut et enfin les signa d'une jolie écriture. « C'est tout, n'est-ce pas ? » dit-il. Je lui dis qu'il était probable qu'on ne le dérangerait plus. « Dois-je laisser ce papier-là ? » ?»«
Si vous le voulez bien. »«
Merci. Au revoir. »
Le matin même, chez moi, au petit jour, j'avais eu une autre visite. Mais personne n'avait vu ce visiteur, qui m'avait trouvé encore au lit, si ce n'est mon fidèle domestique.
Nous envoyâmes, selon l'usage, une seconde feuille de renseignements dans le Norfolk. Elle nous fut retournée par la poste. Les renseignements étaient satisfaisants. Nos conditions se trouvant remplies, nous acceptâmes le contrat, et la prime de la première année fut payée.
Chapitre 4. L'ombre de Miss Niner. 6 ou 7 mois se passèrent sans que je revisse M. Slington. Il était venu une fois chez moi, j'étais sorti. Une autre fois, il m'avait invité à dîner, mais je n'avais pu accepter. L'assurance de son ami datait du mois de mars, et c'est à la fin de septembre ou dans les premiers jours d'octobre que je le rencontrai sur la plage de Scarborough, où j'étais allé pour 48 heures. La soirée était très chaude. Il s'avança vers moi, son chapeau à la main. La première chose que je vis, ce fut cette raie irréprochable qui m'exaspérait si fort. Elle était juste en face de mon nez, et avait encore l'air de me dire « Tu y passeras, mon ami, tu y passeras ». Il n'était pas seul. Il donnait le bras à une jeune fille en très grand deuil et que je regardais avec intérêt. Elle avait l'air extrêmement délicat et son visage pâle avait une expression de profonde mélancolie, ce qui ne l'empêchait pas d'être remarquablement jolie. Il me présenta. C'était sa nièce, Miss Niner.
« Vous vous promenez, Monsieur Samson ? Est-il possible que vous flâniez ?»«
C'était possible. » Je flânais, en effet.
Voulez-vous que nous fassions un tour?
Avec plaisir. La jeune fille marchait entre nous deux sur le sable doux et frais, et nous nous dirigions du côté de Filey.
Voici des traces de roues, dit M. Slington en regardant à ses pieds. Et ce sont, j'en suis sûr, les roues d'une petite voiture de malade. Marguerite, ma chérie, votre ombre a passé par ici.
« L'ombre de Miss Niner, » dis-je en regardant se profiler sur le sable la silhouette délicate de la jeune fille.
« Pas celle-ci, » reprit M. Slington en riant. « Marguerite, racontez donc à M. Samson. »«
C'est qu'en vérité, il n'y a rien à raconter, » dit la jeune fille en se retournant vers moi. « Si ce n'est que partout où je vais, je rencontre toujours le même vieux monsieur malade. » Je l'ai fait remarquer à mon oncle, qu'il a surnommé « mon ombre ».
« Habite-t-il Scarborough ? » demandai-je.
« Pour le moment. Est-ce que vous l'habitez aussi ?»«
Non, mais j'y suis en passant, pour ma santé. Mon oncle m'a installé dans une famille. »«
Et votre ombre ? » dis-je en riant. « Mon ombre, » répondit-elle en souriant, « est comme moi-même. Elle n'est pas très robuste. Je la perds de vue de temps en temps. À d'autres moments, c'est moi qui disparais, mais nous nous retrouvons toujours, mon vieux monsieur et moi. Nous nous sommes rencontrés dans les endroits les plus solitaires de cette plage.
Est-ce lui ?
dis-je en montrant devant nous une petite voiture traînée par un homme. Après être descendue tout près de la mer, elle avait décrit un cercle et remonté vers nous.
« Oui, » dit Miss Niner, « c'est mon ombre. »
Comme la petite voiture approchait, j'aperçus un vieux monsieur tout enveloppé de châle et dont la tête baissée reposait sur sa poitrine. L'individu qui traînait la voiture était un homme entre deux âges. Il avait une physionomie douce, mais un regard très perçant, des cheveux gris, et il boitait légèrement. La petite voiture venait de nous dépasser lorsqu'elle s'arrêta, et le vieux monsieur, étendant la main, m'appela par mon nom. Je retournai sur mes pas, abandonnant pour un instant M. Slington et sa nièce. Au bout de 5 minutes, je les rejoignis. Du plus loin qu'il m'aperçut, M. Slington m'interpella d'une voix assez élevée.
« C'est bien heureux, dit-il, que vous n'ayez pas tardé plus longtemps, car ma nièce serait morte de curiosité. Elle grille d'envie de savoir qui est son ombre. »
« Un ancien directeur aux Indes, dis-je. Un ami intime de l'ami chez lequel j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Le major Banks. Vous avez dû en entendre parler. »
« Non, jamais. »
Très riche, Miss Niner, mais très vieux et très infirme. C'est un homme aimable et qui s'intéresse beaucoup à vous. Il me parlait tout à l'heure avec attendrissement de l'affection qui semble exister entre vous et votre oncle. Monsieur Slington tenait toujours son chapeau d'une main, l'autre passait et repassait le long de ce petit sentier bien connu. On aurait dit qu'il s'y promenait lui-même et qu'il me faisait signe de l'y suivre.
« Monsieur Sampson, reprit-il en pressant contre son cœur le bras de sa nièce, nous nous sommes toujours beaucoup aimés. Notre famille n'a jamais été nombreuse, hélas. Nous sommes encore plus seuls maintenant. Les liens qui nous unissent ne sont pas de ce monde, n'est-ce pas, Marguerite ?»«
Cher oncle, murmura la jeune fille, qui détourna la tête pour cacher ses larmes.
« Il y a entre ma nièce et moi tant de regrets communs, continua-t-il avec émotion, qu'il serait impossible que nos rapports fussent froids et indifférents. Si vous avez gardé le souvenir d'une conversation que nous avons eue ensemble, vous comprendrez ce que je veux dire.
Courage, ma chère Marguerite. Ne vous laissez pas abattre, mon enfant. Je vous en prie, prenez sur vous. » La pauvre jeune fille réussit à contenir son émotion. M. Slington paraissait aussi très bouleversé, si bouleversé qu'il éprouva bientôt le besoin de se refaire en allant prendre un bain de mer. Il nous laissa donc, moi et la jeune personne, assis sur la pointe d'un rocher. Il partit, bien convaincu qu'elle allait employer le temps de son absence à me chanter ses louanges. Et c'est en effet ce qu'elle fit, la pauvre fille. Dans la naïveté de son cœur, elle me parla avec effusion de la tendresse de son oncle, de tous les soins qu'il avait eus pour la sœur qu'elle avait perdue, de la sollicitude dont il l'avait entourée pendant sa dernière maladie. La pauvre enfant avait été malade longtemps, bien longtemps. Elle avait eu souvent des caprices, ruineux et extravagants, surtout vers la fin. Jamais il n'avait perdu patience. Jamais il ne s'était lassé. Il avait toujours été plein d'attention, de douceur, de dévouement. Oh, sa sœur et elle le connaissaient bien. C'était le meilleur des hommes, le plus dévoué.
« Et il me faudra bientôt le quitter, monsieur Sampson, » dit la jeune fille. « Je sens que je m'en vais. Quand je n'y serai plus, j'espère qu'il se mariera et qu'il sera heureux. Il n'est resté célibataire jusqu'ici qu'à cause de ma sœur et de moi. »
La petite voiture de malade qui évoluait devant nous et qui venait de décrire un grand cercle se rapprochait en traçant sur le sable humide un 8 allongé. « Mon enfant, » dis-je à voix basse, en regardant autour de moi et en posant ma main sur le bras de la jeune fille, « le temps presse. Vous entendez le doux murmure de cette mer ?»«
Oui, » répondit-elle.
Et une expression d'étonnement et de crainte s'était peinte sur son visage.
Et vous connaissez la voix terrible qui s'en élève à l'heure de l'orage ?
Oui,
elle est calme et paisible maintenant. Qui sait si cette nuit elle ne sera pas déchaînée ?
Oui,
si vous n'aviez jamais assisté à ces orages, si vous ne les aviez jamais vus, pourriez-vous croire qu'en ces colères elle n'épargne rien, brise tout sur son passage sans pitié, ne compte pas ses victimes ?
Vous me terrifiez, monsieur. Pourquoi me dites-vous toutes ces choses ?
Pour vous sauver, mon enfant, pour vous sauver. Au nom de Dieu, appelez à vous tout votre courage, toute votre énergie. Si vous étiez ici, seul et entouré par la marée montante, sur le point d'être englouti, vous ne seriez pas exposé à un plus grand danger que celui dont nous voulons vous sauver. Le 8 qu'avait tracé sur le sable la petite voiture s'était démesurément allongé pour se terminer par un petit crochet qui aboutissait à la falaise tout près de nous. Au nom du ciel, au nom de tout ce qu'il y a sur cette terre de plus sacré, en souvenir de votre sœur, je vous adjure, je vous supplie, Miss Niner, de me suivre auprès de ce monsieur, et cela sans perdre une seconde. Si la petite voiture eût été plus éloignée, je doute que j'eusse pu l'entraîner. Mais elle était si près qu'avant qu'elle eût le temps de se remettre de son saisissement, je l'avais enlevée. Je ne restais pas avec elle plus de 2 minutes. Moins de 5 minutes plus tard, j'eus l'inexprimable joie de la voir de l'endroit où nous avions été assis ensemble et où j'étais retourné, gravissant la rude montée de la falaise, à moitié soutenu, à moitié porté par un homme grand et agile. Je savais qu'avec ce compagnon, elle n'avait plus rien à redouter de personne. Je restais seul, assis sur le rocher, attendant le retour de M. Slington. Le jour commençait à tomber et les ombres s'épaississaient lorsque je le vis venir. Son chapeau pendait accroché à sa boutonnière. Il essuyait ses cheveux mouillés d'une main, et de l'autre, avec un peigne de poche, il cherchait à reformer la fameuse raie.
« Ma nièce n'est pas ici, monsieur Sampson, » dit-il jetant un regard alentour. Miss Niner a trouvé que l'air était bien frais après le coucher du soleil, et allait rentrer. Il eut l'air surpris, comme si cette initiative si simple eût été un fait anormal.
« C'est moi qui ai conseillé à Miss Niner de rentrer, » dis-je en voyant son étonnement.
« Ah, » répondit-il, « je vous remercie.
Pauvre petite, on l'influence aisément. Il vaut mieux qu'elle soit rentrée. J'ai été absent plus longtemps que je n'aurais pensé. Les bains sont fort loin d'ici. »
« Miss Niner est très délicate, » repris-je.
Il secoua la tête en poussant un profond soupir.
« Hélas !» Extrêmement délicate.
Vous rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques mois ? Le temps qui a passé ne l'a pas rendue plus forte. L'ombre fatale qui, si jeune, a enveloppé sa pauvre sœur, me semble se répandre autour d'elle.
Est-ce ma tendresse qui s'inquiète à tort ? Mais chaque jour je trouve l'ombre plus épaisse, plus sombre. Chère Marguerite, chère Marguerite. Enfin, je ne veux pas désespérer.
La petite voiture zigzaguait devant nous de la manière la plus inconvenante pour une voiture de malade. Elle décrivait sur le sable les courbes les plus invraisemblables. M. Slington, lorsqu'il eut retiré le mouchoir qu'il avait porté à ses yeux, s'en aperçut.
« Si j'en juge d'après les apparences, M. Sampson, je crois que votre pauvre ami va verser. »«
Cela paraît probable, en effet, » dis-je.
« Le domestique doit être gris. »«
C'est possible. »« C'est malheureusement un défaut assez répandu et auquel n'échappent pas toujours les domestiques des vieux messieurs. »«
Le major ne doit pas être lourd. »«
Non, le major n'a pas l'air lourd. » À ma grande joie, la voiture se perdit bientôt dans la brume. Et nous continuâmes à marcher quelque temps en silence. Au bout d'un certain temps, il reprit d'une voix encore émue.
« Restez-vous encore ici quelque temps, monsieur Sampson ?»«
Oh non, je pars ce soir. »«
Vraiment si tôt. Mais les affaires vous réclament. Les hommes comme vous, monsieur Sampson,
sont trop utiles aux autres pour qu'on puisse leur permettre de se reposer.
« Je ne sais si c'est cela, dis-je, mais il faut que je m'en retourne.
À Londres ?
À Londres. J'irai moi-même d'ici peu. »
Je savais cela aussi bien que lui, mais je ne le lui dis pas. Pas plus que je ne lui dis que ma main droite n'avait pas quitté mon revolver tant que je m'étais promené à ses côtés. Pas plus que je ne lui expliquais pourquoi, à la nuit tombante, je me gardais de marcher entre lui et le bord de la mer. Nous quittâmes la plage et prîmes chacun notre route. Nous nous étions déjà dit bonsoir lorsqu'il se retourna. « Monsieur Sampson, permettez-moi de vous demander si ce pauvre Meltham, dont nous avons parlé ensemble, est mort. »
« Il ne l'était pas la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Mais c'est un homme fini et qui n'en a pas pour longtemps. Il est perdu, perdu à jamais. »
« Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu » dit-il avec un grand sentiment. « Comme c'est triste. Ce monde est un tombeau. » Et il continua son chemin. Il ne négligeait rien, en effet, pour que ce monde fût un vrai tombeau. Mais je me gardais de lui faire part de cette réflexion. Il poursuivit son chemin. Je suivis le mien en toute hâte. Cette rencontre avait eu lieu, ainsi que je l'ai déjà dit, à la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Je ne le revis plus qu'une seule fois, à la fin novembre.
Chapitre 5. Acculé au mur. Ce matin-là, j'étais attendu pour déjeuner au temple. Et pour rien au monde, je n'eusse manqué au rendez-vous. La bise soufflait du nord, le grésil vous cinglait au visage. On barbotait dans une mer de boue. Avec cela, impossible de trouver une voiture. Aussi, je fus bientôt mouillé jusqu'aux genoux. Mais je n'y prenais pas garde, et eussé-je été trempé jusqu'aux os, j'aurais persisté. Je finis par arriver. Et je pénétrai au temple, dans une maison qui faisait le coin de la rue et qui dominait la rivière. Je montai jusqu'au dernier étage. Là, sur une des portes, je lus le nom de M. Alfred Beckwith, et, sur la porte en face, celui de M. Julius Slington. Les portes des deux petits appartements, qui se composaient chacun de deux pièces, étaient grandes ouvertes, de sorte que l'on ne pouvait rien dire d'un côté sans être entendu de l'autre. C'était la première fois que je pénétrais dans ces chambres. Elles me firent une impression horrible. Elles étaient lugubres, enfermées, malsaines. Les meubles, qui avaient dû être autrefois de bons meubles, étaient fanés et sales. Tout était dans le plus grand désordre, et il régnait partout une odeur d'eau-de-vie, d'opium et de tabac qui vous prenait à la gorge. Les chenets, la grille du feu, étaient tout éclaboussés, tout tachés de rouille. J'aperçus vautrer sur un canapé près du feu, dans la chambre où le déjeuner était préparé, l'hôte du logis, M. Beckwith. Il avait toutes les apparences d'un ignoble ivrogne, et, à le voir ainsi, on sentait que ses habitudes honteuses le conduisaient à une mort certaine et prochaine. « Slington n'est pas encore là, » me dit-il en me voyant entrer et en essayant de se tenir ferme sur ses jambes. « Je vais l'appeler. « Hola, Jules César !» Et tout en riant de toutes ses forces, d'une voix enrouée, il tapait l'une contre l'autre les pelles et les pincettes et faisait un tapage à rendre fou. C'était là certainement sa manière habituelle d'appeler son voisin. À travers le vacarme, je distinguais la voix de M. Slington de l'autre côté du palier. Et bientôt, je le vis entrer. Il ne s'attendait certainement pas au plaisir de me rencontrer. J'ai eu plusieurs fois en ma vie l'occasion de voir des scélérats démasqués, mais je n'ai jamais vu un homme si terrifié que Slington lorsque ses yeux rencontrèrent les miens.
« Jules César !» cria Beckwith titubant entre nous. « Je te présente Monsieur Sampson. »« Monsieur Sampson, Jules César. » « Julius, voyez-vous, Monsieur Sampson, c'est l'ami de mon cœur. Il ne me laisse jamais manquer d'eau de vie, ni jour ni nuit. Julius est mon bienfaiteur. Julius ne me permet ni thé ni café. Il jette tout cela par les fenêtres, avec l'eau des pots à l'eau et des cruches. À quoi sert l'eau? Parlez-moi de l'eau de vie. Allons, Julius, fais bouillir l'eau de vie. »
Il y avait dans les cendres qui s'entassaient là, sans doute depuis bien des semaines, une vieille casserole cabossée et rouillée. Et Beckwith, toujours chancelant, je crus qu'il allait s'allonger la tête première dans le feu, s'en saisit et essaya de la mettre dans la main de Slington.
« Faites donc bouillir l'eau de vie, Jules César. Voyons, c'est votre affaire. Faites bouillir l'eau de vie. »
L'ivrogne s'exaspérait. Et je crus, tant ses gestes étaient violents, qu'il allait, avec sa casserole, fendre la tête de Slington. J'étendis la main pour le retenir. Il recula jusqu'au canapé et y tomba haletant, tremblant, les yeux injectés, horrible à voir dans cette robe de chambre en lambeaux, promenant sur nous son regard hébété. Je remarquai alors que sur la table, il n'y avait à manger que des harengs salés, un ragoût fumant très épicé, et rien à boire que de l'eau de vie.
« Quelles que soient vos intentions en venant ici, monsieur Sampson, » me dit Slington,
et pour la dernière fois, j'aperçus le fameux petit sentier si bien entretenu.
« Je ne vous remercie pas moins de m'avoir préservé de la violence de cet homme. »«
Faites bouillir de l'eau !»
marmottait Beckwith d'une voix enrouée. Sans répondre à son désir de connaître mes intentions, je dis tranquillement.
« Comment va votre nièce, monsieur Slington ?»
Il me regarda comme pour lire au fond de mon âme. Mais je ne me laissais pas décontenancer. Il regardait de mon côté avec insistance.
Il m'est très douloureux d'avoir à dire que ma nièce s'est conduite comme une ingrate, qu'elle a trahi son meilleur ami. Elle est partie, sans même me laisser un mot. Elle a été trompée sans doute, pauvre petite, mal conseillée par quelque misérable. Peut-être en avez-vous entendu parler.
J'ai en effet entendu dire qu'elle avait été trompée par un misérable. J'en ai même la preuve.
« En êtes-vous sûr ? » dit-il.
« Tout à fait sûr. »
« Faites bouillir l'eau de vie !» répétait toujours Beckwith. « Nous avons du monde à déjeuner, Julius César. Faites donc votre métier. Faites bouillir l'eau de vie. »
Les yeux de Slington se portaient alternativement sur Beckwith et sur moi. Au bout d'un moment de réflexion, il dit
« Monsieur Sampson, vous êtes un homme du monde. J'en suis un aussi. Je serai donc franc avec vous. »
« Oh non !»
dis-je en secouant la tête. « Cela ne vous est pas possible. Je vous dis, monsieur, que je m'expliquerai franchement avec vous. Et moi, je vous dis que vous ne le pourrez pas. Je vous connais. Vous, sincère, mais c'est impossible, impossible. »
« Ce que je voulais dire, monsieur Sampson, continua-t-il toujours très maître de lui, c'est que je vois très bien où vous voulez en venir. Vous voulez sauver votre argent et échapper à vos engagements. Ce sont des tours dont vous êtes coutumiers dans votre partie, vous autres messieurs des assurances. Mais vous n'y arriverez pas avec moi, monsieur. Vous n'y arriverez pas. Je ne suis pas un adversaire dont on vienne à bout aisément. Je vous en avertis. Il s'agira d'établir quand l'heure en sera venue, quand et comment monsieur Beckwith a contracté les habitudes que vous lui voyez. Là-dessus, monsieur, j'abandonne cette pauvre créature à ses divagations. Et j'ai l'honneur de vous saluer et de vous souhaiter meilleure chance une autre fois. »
Tandis qu'il parlait, Beckwith s'était versé un grand verre d'eau-de-vie. Tout à coup, il le lança à la tête de Slington, qui, à moitié aveuglé par l'alcool et blessé au front par un éclat de verre, porta ses mains à son front. Au bruit, une quatrième personne avait paru. Elle avait fermé la porte et se tenait devant. C'était un homme à l'air doux, mais au regard pénétrant. Il avait les cheveux gris et il boitait légèrement. Slington tira son mouchoir, le pressa sur ses yeux que l'alcool brûlait et étancha le sang qui coulait de son front. Et tandis qu'il s'attardait à cette opération, je remarquai qu'un changement se produisait en lui. Changement qui était la conséquence de celui qu'il remarquait chez Beckwith. Celui-ci s'était redressé. Il avait cessé de trembler et de haleter. Et il ne quittait pas des yeux Slington. Jamais de ma vie, je n'ai vu sur un visage humain se peindre une telle expression de haine et de volonté que sur le visage de Beckwith à cette heure.
« Regarde-moi, misérable, » dit Beckwith, « et vois qui je suis réellement. J'ai loué ces chambres exprès pour t'y attirer. C'était un piège. J'ai fait l'ivrogne. C'était un piège. Tu t'y es laissé prendre. Tu n'en sortiras pas vivant. Le matin où tu es allé trouver M. Samson à son bureau, je t'avais devancé. Je l'avais vu avant toi. Tu ne nous as pas trompés une minute, misérable. Nous t'avons suivi pas à pas et nous avons déjoué tous tes mauvais desseins. Tu croyais, après m'avoir fait prendre cette assurance de 2000 livres, que tu te débarrasserais facilement de moi et que tu toucherais la prime. C'est si facile de tuer un homme avec de l'eau-de-vie. Il paraît que ce n'est pas si facile que cela. Cela ne marchait pas assez vite à ton gré, et tu ajoutais autre chose à l'eau-de-vie. Ne t'ai-je pas vu souvent, quand tu me croyais gris, tirer une petite fiole de ta poche et en verser le contenu dans mon verre ? Assassin, faussaire ! Ah, combien de fois, me trouvant seul ici, la nuit, avec toi, n'ai-je pas été tenté d'appuyer le doigt sur ma détente de mon pistolet et de te faire sauter la cervelle ? Le changement subit qui s'était produit, qui avait transformé cette créature privée de raison, cet ivrogne abject, en cet homme déterminé avec lequel on sentait une résolution implacable, c'était trop. Et dans le premier moment, sans aucune forme de rhétorique, Slington chancela sous cette révélation. Ce ne fut qu'une faiblesse momentanée, car ce serait une grande erreur de croire qu'un homme qui a déployé tant d'audace et de finesse dans le crime va manquer à sa nature et faiblir. Il n'a pas reculé devant le meurtre pour accomplir ses projets. Il n'en reculera pas plus devant un danger de mort. Il sera toujours et partout hardi et effronté. Rien n'est plus faux que de croire qu'un criminel, ayant un crime sur la conscience, n'aura pas l'audace de marcher la tête haute. D'abord, il n'a pas de conscience, car s'il en avait une, et une capable de sentir le remords, il n'eût pas commis le crime. Dans cette circonstance, la conduite de Slington fut parfaitement logique. Le monstre reprit vite possession de lui-même et nous tint tête avec suffisamment de calme. Il était pâle, hagard, changé, mais seulement comme un escroc qui a risqué un gros coup, qui a été découvert et qui a perdu la partie. « Écoute-moi, misérable, » continua Beckwith, « et que chacune de mes paroles te perce le cœur comme un coup de poignard. Oui, j'ai loué ces chambres exprès afin de me trouver sur ton chemin et de te suggérer un projet qui devait tenter ton âme de démon. Tel que je te connaissais, je savais bien que tu ne résisterais pas au désir de profiter des vices et des apparences que je m'étais données. Ah, c'est que je te connaissais bien. Je savais que tu étais un assassin, que pour une somme analogue, tu n'avais pas hésité à faire mourir une innocente jeune fille qui s'était confiée à toi. Je savais que petit à petit, tu tuais la seconde. » Slington tira sa tabatière de sa poche et prit une prise en ricanant. « Et cependant, » continua Beckwith, qui ne le quittait pas des yeux, « vois comme je t'ai facilement mis dedans. Cet ivrogne, cet abruti, qui ne buvait jamais la 50e partie des liqueurs que tu lui versais, qui les jetait ici, là, n'importe où, presque sous tes yeux, qui a acheté l'individu qui devait le surveiller, ce fou avec lequel tu ne prenais aucune précaution, mais qui était si décidé à ne pas perdre la trace de la bête sauvage qu'il poursuivait, que en eusses-tu pris d'infini, il t'aurait encore découvert. Cet ivrogne que tu as bien des fois laissé sur le parquet et même repoussé du pied, cet ivrogne a été plus fort que toi. T'es-tu douté que jamais il ne te perdrait de vue? Que la nuit, à toute heure, à tout instant, il te guettait? Que tandis que tu dormais, il était là, ne laissant échapper aucun indice, épiant tout, scrutant tous tes papiers, changeant le contenu de tes fioles, de tes paquets de poudre, dont il gardait des échantillons, fouillant tous les secrets de ta vie. » Slington avait tiré de sa tabatière une seconde prise de tabac, mais petit à petit, elle s'échappait de ses doigts et tombait à terre. Du bout de son pied, il cherchait à effacer cette tache noire sur laquelle ses yeux restaient comme rivés. « Cet ivrogne, » continua Beckwith, « que tu laissais aller et venir chez toi sans méfiance, que tu attirais même pour qu'il bût toutes les liqueurs, toutes les horreurs que tu laissais traîner, afin d'être plus vite débarrassé de lui. Cet ivrogne n'avait pas plus de scrupules envers toi qu'il n'en aurait eu vis-à-vis d'un tigre. Tous les moyens lui étaient bons. Il avait une clé pour tous les tiroirs, un réactif pour tous les poisons. Il a fini par deviner le chiffre dont tu te servais pour écrire. Il sait aussi bien que toi combien il t'a fallu de temps pour mener à bien la criminelle entreprise qui a coûté la vie à une pauvre enfant. Quelle dose tu as employée, à quels intervalles. Il sait que tu notais tous les signes d'affaiblissement moral ou physique, tous les caprices morbides, tous les changements, toutes les douleurs. Il sait aussi bien que toi que tout a été consigné jour par jour, comme pour servir de renseignement dans l'avenir. Il peut te dire, mieux que tu ne pourrais le faire toi-même, où est ce journal. Slington, qui avait continué à frotter le parquet avec son pied, s'arrêta et regarda Beckwith. « Non, reprit celui-ci, comme s'il répondait à une question. Non, il n'est pas dans le tiroir secret du secrétaire. Il n'y est plus. Alors, c'est que vous êtes un voleur, interrompit Slington. Toujours inflexible, marchant à son but sans faiblesse, avec une résolution terrible, une puissance de volonté à laquelle on sentait que le misérable ne pourrait pas échapper, Beckwith reprit. « Avais-tu deviné aussi que l'ombre de ta nièce, c'était moi ?» Poussant un rugissement de bête sauvage, Slington porta les mains à sa tête et s'arracha les cheveux. C'en était fait de cette fameuse raie, de ce petit sentier dont il ne devait plus d'ailleurs se servir. Beckwith continua. « Chaque fois que tu sortais, je te suivais. Et quoique je sentisse bien que le temps et que la prudence t'obligeaient à ne rien précipiter, cependant, je te surveillais de près, à cause de la pauvre innocente qui était menacée. Ce n'est que la veille de ta dernière visite à Scarborough pendant la nuit, te rappelles-tu cette nuit où tu t'es endormi avec un petit flacon attaché à ton poignet, que je me suis rendu maître du journal. Quand je pus en déchiffrer chaque mot, j'envoyai chercher M. Sampson, qui jusque-là s'était tenu à l'écart. Ce brave garçon qui est là devant la porte, c'est le fidèle domestique de M. Sampson, et c'est à nous trois que nous avons sauvé ta nièce. » Slington nous regarda, fit un ou deux pas en chancelant, ayant l'air de chercher quelque trou pour se cacher. Un étrange changement s'était produit en lui. On aurait dit qu'il s'était amoindri. Ses vêtements n'avaient plus l'air de tenir sur lui, ils pendaient le long de son corps. « Et sais-tu pourquoi, misérable, un homme s'est acharné après toi et a voulu être seul à te confondre, quand il lui aurait suffi de dire un mot pour mettre à tes trousses toute l'administration de M. Sampson? Le sais-tu? Ah, tu as osé prononcer quelquefois le nom de Meltham. » Le visage de Slington se décomposait de minute en minute. La respiration lui manquait, il était haletant. Quand tu as envoyé la charmante enfant que tu as assassinée, et Dieu sait quelle ruse et quel mensonge il t'a fallu employer pour la décider, quand tu l'as envoyée chez M. Meltham, et qu'avant de l'emmener sur le continent, tu lui as fait signer cette assurance, ce qui était pour elle signer son arrêt de mort, ce fut à M. Meltham lui-même qu'elle parla. Hélas, il ne lui a pas été donné de la sauver, bien que je sache qu'il eût volontiers sacrifié sa vie pour elle. Il l'admirait, je dirais même qu'il aimait passionnément. Si tu étais capable de comprendre ce qu'un tel mot veut dire. Lorsqu'il apprit sa mort, il eut l'intuition de ton crime, et l'ayant perdue, elle, il n'eut plus qu'un but dans la vie, la venger et t'exterminer. Les narines du misérable frémissaient convulsivement, bien que ses lèvres restassent closes. Meltham, continua Beckwith, était aussi sûr que tu ne pourrais pas lui échapper en ce monde s'il consacrait à ta perte toutes ses énergies, qu'il était sûr, dans l'accomplissement de cet acte de justice, de n'être qu'un misérable instrument dans les mains de la Providence. Je suis Meltham, et je remercie Dieu qui m'a permis d'accomplir ma tâche. Slington, éperdu, râlait. Sa poitrine se soulevait avec effort, tandis qu'il regardait son implacable ennemi. C'était vraiment
l'animal aux abois, la bête fauve forcée jusque dans sa tanière. Tu ne m'avais jamais vu sous mon vrai nom. Sois tranquille, tu me verras encore. Je serai là pour te traîner devant le tribunal qui te jugera. Je t'apparaîtrai à l'heure où la corde des pendus s'enroulera autour de ton cou et où la foule se montrera du doigt l'assassin. » Comme Meltham prononçait ces derniers mots, le misérable détourna la tête en portant vivement une de ses mains à sa bouche. La chambre se remplit d'une forte odeur âcre. Au même moment, une sorte de convulsion le tordit, puis il tomba lourdement, ébranlant dans sa chute les vieilles portes et les vieilles fenêtres. Le monstre s'était fait justice. Il s'était empoisonné. Quand nous vîmes qu'il était mort, nous sortîmes de la chambre. Et Meltham, me prenant la main, me dit d'un air lassé : « Je n'ai plus rien à faire dans ce monde, mon ami. Dieu veuille permettre que j'aille la rejoindre bientôt. » J'essayai en vain de le remonter, de lui redonner du courage. Cette pensée qu'il aurait pu la sauver et qu'il ne l'avait pas fait était trop amère. Il ne pouvait se consoler. Cette mort lui avait brisé le cœur. « Mon but est atteint, Samson. Il n'y a plus rien qui me rattache à l'existence. La vie est trop lourde pour moi. Je suis sans force, sans courage, sans espérance, sans but. C'est fini. » Qui aurait pu croire que l'homme découragé qui parlait ainsi était le même qui tout à l'heure marchait si résolument à son but ? J'essayais de tous les moyens, j'employais tous les arguments, mais en vain. Il avait le cœur brisé. Il mourut au printemps, en laissant toute sa fortune à la sœur de celle qu'il avait aimée jusqu'à en mourir. Ce fut par mes soins qu'il fut enterré à côté d'elle. Miss Niner, que le dévouement de Meltham avait sauvée d'une mort certaine, fut une femme heureuse et une heureuse mère. Elle a épousé le fils de ma sœur, le successeur de Meltham. Elle vit encore, et ses enfants jouent au cheval sur ma canne dans les allées du jardin chaque fois que je vais les voir.